VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 2 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, une dizaine de personnes ont été tuées dans des attaques dans le centre-est et au Sahel.
En République démocratique du Congo, une ONG se dit préoccupée par une injonction de ne plus diffuser des reportages sur l'ancien président Joseph Kabila.
En Algérie, la présidence a annoncé la démission du président Abdelaziz Bouteflika avant la fin de son mandat le 28 avril.
Au Mozambique, une épidémie de choléra se propage dans le centre du pays suite aux inondations provoquées par le cyclone Idai.
Au Venezuela, la Cour suprême a demandé la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido.
Et ici à Washington, les démocrates de la Chambre des représentants résolus à porter l'affaire devant la justice s'ils n'obtiennent pas dans son intégralité le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, une dizaine de personnes ont été tuées entre dimanche et lundi dans des attaques dans le centre-est et au Sahel. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un groupe d'hommes armés venus des villages frontaliers du Burkina et du Ghana ont perpétré une attaque contre le domicile du chef coutumier de Zouaga dans la province du Boulgou, région du centre-est, a annoncé lundi soir le ministère chargé de l'administration du territoire. 8 civils ont été tués dans l'attaque et 4 autres blessés selon le gouvernement. Selon toujours le gouvernement, les assaillants ont pillé et incendié les boutiques et le marché du dit village avant de replier. Si le mobile de cette attaque n'est véritablement pas encore connu, le ministère de l'administration territoriale tente d'expliquer que cette attaque serait un rebondissement de la crise qui secoue depuis un certain temps la chefferie coutumière de cette localité. Cette fois-ci à Arbinda, dans le Soum, région du Sahel, le guide spirituel et 2 membres de sa famille ont été tués ce week-end, selon des sources sécuritaires. En attendant une annonce officielle des autorités, plusieurs sources indiquent que suite à l'assassinat de ce guide spirituel, plusieurs autres personnes ont été tuées hier lundi. La situation reste tendue à Arbinda et les populations craignent de nouvelles violences, ont précisé d'autres sources à VOA Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, un comité d'experts, dirigé depuis janvier par le professeur de droit public Makan Moussa Sissoko, a remis hier au président Ibrahim Boubacar Keïta un nouveau projet de révision constitutionnelle dont l'adoption sera soumise en référendum et ce, 1 an et demi après l'abandon d'une première mouture, a annoncé la présidence malienne dans un communiqué. L'ONU avait récemment dénoncé les retards pris dans la réforme constitutionnelle prévu par l'accord de paix de 2015 pour créer un Sénat, une Cour des comptes et inscrire la décentralisation dans la Constitution, alors que des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et onusiennes, régulièrement visées par des attaques meurtrières.
En République démocratique du Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice s'est déclarée hier profondément préoccupée par l'injonction faite aux directeurs généraux de la télévision d'État, RTNC, et de la chaîne privée Télé 50 par les nouveaux responsables du renseignement, celle de ne plus diffuser de reportages sur l'ancien président Joseph Kabila. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, se dit choquée par la convocation adressée à Jean-Marie Kassamba de Télé 50, proche de l'ancien président Kabila, et au directeur général de la RTNC, la télévision d'État, par l'Agence nationale des renseignements ANR. Leur convocation à se présenter devant un responsable de la sécurité intérieure à l'ANR avait pour objet de leur indiquer de ne plus passer sur leur chaîne des reportages ou émissions mettant en exergue l'ancien président Kabila, écrit la cage citant M. Kassamba. Au lendemain de cette convocation, l'ANR a ordonné la coupure du signal de Télé 50, une télévision dont l'un des principaux actionnaires est M. Moïse Ekanga, un proche de M. Kabila. Depuis samedi, la chaîne n'est captée que par décodeur.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat le 28 avril, a annoncé hier la présidence un départ qui était la principale revendication de la rue qui réclame aussi la fin du système au pouvoir. Cette déclaration de la présidence intervient peu après l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement composé de technocrates pour l'essentiel. Ni la date de cette démission, ni les décisions importantes qui seront prises avant n'ont cependant été précisées. Les Algérois interrogés par l'AFP scandent le même slogan « Le départ annoncé de Bouteflika ne suffit pas, il faut que tout le système dégage ».
Suite aux inondations provoquées au Mozambique par le cyclone Idai, une épidémie de choléra se propage dans le centre du pays. Le bilan est d'un mort et de plus de 1000 contaminations. Claire Morin-Gibourg.
C'est dans le port de Beira, ville complètement dévastée par le cyclone Idai, que la première victime a été recensée. Hier, lors de son bilan quotidien, le directeur national de la santé, Hussein Issé, a indiqué que le nombre de cas de choléra enregistrés continuait à augmenter. 96 patients ayant contracté la maladie sont toujours hospitalisés. Près de 900 000 doses d'un vaccin oral sont attendues au Mozambique et la vaccination devrait commencer mercredi à Beira et jeudi dans les villes de Dondo et Namantanda. 9 centres de traitement du choléra ont été mis en place dans la province autour de Beira pour tenter d'enrayer la propagation de la maladie. Malgré les secours et l'aide humanitaire venue du monde entier, des centaines de milliers de sinistrés vivent toujours dans des conditions très précaires. Beaucoup de zones sont encore submergées par des eaux sales qui favorisent la propagation d'épidémies telles que le choléra.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants sont prêts à avoir recours dès demain à l'assignation à comparaître pour forcer le ministre de la Justice, William Barr, à lui remettre dans son intégralité le rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. La commission avait donné à M. Barr jusqu'à ce mardi pour obtempérer. Mais ce dernier s'est contenté de promettre d'ici mi-avril une version expurgée de ce rapport en raison de matériel confidentiel à protéger.
La Maison-Blanche a délivré des accréditations secret défense à de proches conseillers du président Donald Trump malgré des avis défavorables. C'est ce qu'affirme une puissante commission du Congrès relançant la controverse sur les risques pour la sécurité nationale au sein de l'administration Trump. Des détails avec John Linden.
Environ 25 personnes ont obtenu des habilitations secret défense ou des autorisations d'accès à des informations touchant à la sécurité nationale malgré des avis défavorables selon la commission de contrôle de la Chambre des représentants. Ces 25 personnes ne sont pas identifiées, mais la commission a réclamé à la Maison-Blanche des informations concernant le processus d'habilitation de plusieurs collaborateurs, dont la fille du président Donald Trump, Ivanka, et son mari, Jared Kushner, influent conseiller de Donald Trump. La requête des parlementaires concerne également le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, l'un de ses prédécesseurs, Michael Flynn, ainsi que l'ancien conseiller présidentiel, Rob Porter. Et c'est grâce au témoignage de Richard Newbolt, chargé des autorisations de sécurité au sein du service du personnel à la Maison-Blanche, où elle travaille depuis 18 ans, et présentée comme une lanceuse d'alerte, que cette affaire a été révélée. Au cours d'une audition par une commission du Congrès dirigée par le démocrate Elijah Cummings le 23 mars, Mme Newbolt a mis en garde contre les risques graves pour la sécurité dont elle a été témoin ces deux dernières années. Elle a également indiqué avoir subi des représailles de la part de ses supérieurs.
La FAA, le régulateur aérien américain, a souligné hier dans un communiqué que Boeing doit s'assurer que les changements apportés au MCAS répondent correctement aux problématiques en jeu. L'avionneur a présenté le 27 mars une mise à jour de ce logiciel, espérant obtenir rapidement l'autorisation de le déployer dans la flotte des 737 MAX cloués au sol depuis mars, mi-mars, après l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopia Open Airline qui a fait 157 morts.
Au Venezuela, la Cour suprême, contrôlée par le régime du président chaviste Nicolas Maduro, a demandé lundi la levée de l'immunité parlementaire du président autoproclamé Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays. Il lui est reproché de n'avoir pas respecté une interdiction de sortie du territoire. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Muniteco, Nanit Talani.
500 millions d'euros, c'est le montant que Terminal Investment, filiale du géant italo-suisse MSC, va investir en faveur du port de Lomé au Togo sur les 10 prochaines années. La Tribune Afrique déclare que l'objectif, c'est de permettre au port d'être plus compétitif, plus moderne et de pouvoir assurer la gestion de 4 millions de conteneurs par an. Avec son nouveau quai moderne, doté d'un bassin de 15 mètres de profondeur et long de 450 mètres, le port autonome de Lomé rivalise déjà avec les ports d'Abidjan et de Dakar. La société nigérienne de banque a reçu de Proparco, filiale de l'Agence française de développement, un prêt de 10 millions d'euros en faveur du secteur privé. L'agence Ecofin rapporte que ce financement permettra principalement à la banque de développer son offre de financement à moyen et long terme auprès des petites et moyennes entreprises et de créer de nouveaux produits pour répondre à leurs besoins spécifiques. Terminons avec la Sierra Leone qui interdit pour un mois et ce depuis hier la pêche industrielle dans ses eaux afin de reconstituer les stocks de poissons. Selon la ministre de la Pêche, Emma Kouwa Diallo, les entreprises doivent non seulement cesser toute activité, mais aussi éviter d'exporter tout poisson jusqu'au 30 avril. Elles devront plutôt stocker en chambre froide des poissons de toute espèce afin d'éviter la pénurie et les hausses de prix sur le marché. La pêche illégale représente environ 30% des prises des flottes étrangères en Sierra Leone.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Espérance de Tunis a retrouvé le sourire.
Oui, 4 jours après avoir perdu la Supercoupe de la CAF face au Raja Casablanca, l'Espérance de Tunis s'est imposée en Supercoupe de Tunisie devant le CA Bizertin 2-1. Initialement, la rencontre devait opposer les sang et or au club africain, vainqueur de la Coupe nationale, sauf que ce dernier a refusé l'arbitre tunisien désigné pour le match. Après de multiples reports et des recherches d'adversaires, le CA Bizertin a décidé d'affronter les champions d'Afrique en titre à Doha au Qatar.
Coup dur pour Achraf Hakimi et Dortmund, le Maroc retient son souffle.
Oui, l'international marocain de 20 ans prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund sera privé du duel de samedi face au Bayern Munich à l'Allianz Arena et va même manquer les 7 derniers matchs de Bundesliga à cause d'un os cassé à son pied droit. Il va être opéré à Madrid d'après le club. Achraf Hakimi est sorti en cours du match contre Wolfsburg alors qu'il était entré en jeu pour remplacer le Français Abdou Diallo, également blessé. Une mauvaise nouvelle donc pour les Lions de l'Atlas qui espèrent toutefois un incertain retour de leur prodige sur les pelouses avant le début de la CAN Égypte 2019.
Al Ahly remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball.
Oui, le club tunisien était opposé à Carthage de la Tunisie, soit l'affiche de la finale de 2018 et cette fois-ci encore, ce sont les Égyptiennes qui se sont imposées par 3-7 à 1. Al Ahly établit ainsi un record avec son 10e trophée dans la compétition. La 3e place est revenue au Kenyan de Pipeline, dominatrice des Algériennes de JSP par 3-7 à 0. L'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des clubs champions en volley-ball avait démarré depuis le 14 mars dernier.
Tennis, Félix Auger-Aliassime, invité au Masters de Madrid.
Oui, la nouvelle pépite du tennis canadien, 18 ans seulement et demi-finaliste à Miami, a été invité à participer au Masters 1000 de Madrid qui aura lieu du 5 au 12 mai. Félix Auger-Aliassime, aujourd'hui classé 33e mondial, n'était pas assez bien classé au moment de la publication de la liste d'entrée du tournoi diffusée la semaine dernière. Le jeune Canadien n'aura pas besoin de passer par les qualifications comme à Miami, où il a atteint les demi-finales et accédera directement au tableau principal. La première wild card sur les 4 qui seront décernés pour le tournoi madrilène a été attribuée à l'Espagnol David Ferrer, qui, à 37 ans, mettra fin à sa carrière à cette occasion. On finit avec du basketball avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Indiana et Détroit 111 à 102, Boston et Miami 110 à 105, Milwaukee et Brooklyn 131 à 121, New York et Chicago 113 à 105, Toronto et Orlando 121 à 109, Portland et Minnesota 132 à 122, Dallas et Philadelphie 122 à 102, Utah et Charlotte 111 à 102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Poursuite de notre série sur la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda, notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, a recueilli le témoignage de Sixbert Bigirimana, un jeune banquier de 33 ans. Il avait 8 ans au moment du génocide, mais aujourd'hui, il a pardonné à ceux qui ont tué son père et sa mère, et il se dit résolument optimiste quant à l'avenir du Rwanda et de l'Afrique.
En 1994, je n'avais que 8 ans. Quand l'avion présidentiel a été abattu, j'ai vu beaucoup de mouvements à la maison, beaucoup de gestes, mais je ne parvenais pas à savoir exactement ce qui se passe. On nous avait interdit de jouer, on nous avait interdit de circuler dans toutes les chambres, et on nous demandait seulement de rester dans une seule chambre. Le lendemain, les Inirahamwe avaient déjà attaqué à la maison. On a pu sauter le mur pour aller chez les voisins. Parce qu'on était une fratrie de 7 enfants. Une partie est allée chez les voisins pour se cacher. Et nous, on est partis encore chez d'autres voisins. Ils ont continué à tuer et tuer beaucoup de gens. Finalement, on apprendra que nos parents ont été tués avec un enfant là où ils étaient cachés. Un de mes frères, qui connaissait déjà les petites ruelles, a attendu la nuit pour nous amener là où il y avait de la sécurité. Il y avait un blanc qui était dans un des orphelinats qu'on appelle le centre mémorial Gisimba, et c'est là où on nous a amenés. Les Inirahamwe viendront plus tard apprendre que dans cet orphelinat, il n'y a pas que des enfants, que même les adultes se sont réfugiés là-bas. C'est là où les problèmes commencent.
Ils vont attaquer l'orphelinat ?
Ils ont voulu attaquer l'orphelinat, mais grâce à ce monsieur, à ce blanc-là, je ne me rappelle pas son nom. Seulement, mon seul souvenir, je me rappelle qu'il travaillait dans une ONG qui s'appelle ADRA, qui fournissait de l'eau potable. Il a sauvé beaucoup de gens. Grâce à ses connaissances et à ses contacts, il a pu nous évacuer à la cathédrale Saint-Michel, c'est au centre-ville, et c'était gardé. À la cathédrale Saint-Michel, on est resté là-bas jusqu'à ce que les soldats du FPR prennent Kigali. Et quand Kigali, la ville de Kigali a été prise, même si j'étais petit, je l'ai vu directement sur le visage des gens. Les gens, ils souriaient, ils étaient contents. Notre tante maternelle nous a récupérés. Après, bien sûr, l'État a mis à notre disposition une institution qui devait couvrir nos frais de scolarité, le Minerval et tout le reste.
Vous avez fini vos études en quoi?
J'ai fini mes études dans les finances. Je suis un banquier, je suis marié avec un enfant. Je suis à la banque commerciale du Rwanda.
25 ans après, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il a pardonné?
J'ai eu de la chance, j'étais encore petit. J'ai 33 ans. C'est aujourd'hui à cet âge-ci que je me rappelle et j'ai la nostalgie de mes parents. Mais tout compte fait, je vois que j'ai certains frères et certaines sœurs. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Il y en a d'autres qui ont trop souffert plus que moi. Moi, je crois que je les ai pardonnés. Puisque si vous regardez aussi, vous trouverez des gens, même des Hutus qui ont sauvé des gens. Il y a des Hutus qui ont sauvé des gens. Ma chance, c'est que j'étais encore petit. J'ai la nostalgie de mes parents, c'est vrai. Mais ce qui est arrivé dans ce pays, je ne suis pas le seul. Il y en a ceux qui ont connu pire. Mais j'ai pardonné.
Marié, une fille, banquier. Est-ce qu'on peut dire qu'il se considère comme un homme heureux maintenant?
Je suis très heureux. J'étais petit pendant le génocide. Mais je crois que avoir aujourd'hui une femme et un enfant, avoir ma famille, ça vient combler ce vide de mes parents.
Un des témoignages recueillis à Kigali par notre envoyé spécial, Idriss Fall.
VOA Afrique. à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Plus d'une semaine après le massacre d'Ogossagou dans le centre du Mali, massacre qui a fait au moins 160 morts, des enquêteurs nationaux et internationaux sont dans la région de Mopti. Leur objectif est de faire la lumière sur ces violences attribuées à une milice Dogon qui a démenti toute implication. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l'homme au Mali, Alioune Tine.
C'est très important qu'on puisse identifier les véritables responsables de ce massacre parce que c'est extrêmement grave et effectivement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que vraiment ces crimes atroces et effroyables ne restent pas impunis. Ça serait un message très fort envoyé aux responsables et à tous ceux qui sont dans des groupes ou dans des communautés ou dans des milices armées, vraiment ne soient tentés de recommencer ce qui s'est passé.
Justement, le drame d'Ogossagou semble avoir attiré l'attention de la communauté internationale et de l'opinion internationale. Qu'attendez-vous maintenant des autorités maliennes?
Je pense que le grand problème que nous avons avec les autorités maliennes est, en dépit effectivement des efforts réels qu'ils sont en train d'entreprendre pour renforcer leur justice et leur donner des capacités, le problème, c'est l'impunité, justement, des crimes, surtout les crimes internationaux qui sont commis, qui peuvent être commis à la fois par les FAMA, crimes aussi qui peuvent être commis par les forces en présence, ça peut être l'amunissement, ça peut être également aussi les milices armées. Et bien sûr, je passe sous silence les crimes commis également par les djihadistes. Donc c'est cela le problème. Le problème de l'impunité, c'est un problème sérieux et c'est un problème qu'il faut adresser avec courage pour vraiment envoyer un message très clair à toutes les forces qui sont en présence.
Et en tant qu'expert indépendant des Nations Unies sur le Mali, quel doit être justement le travail des Nations Unies, de l'aménagement à la mission sur place, que certains accusent de ne pas justement faire assez pour protéger les civils?
L'aménagement est une force de maintien de la paix. Et leur mandat, effectivement, c'est de faire la guerre contre le terrorisme. Il est évident que, effectivement, dans le contexte malien, ça peut ne pas être toujours un avantage. Il y a des inconvénients.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer le mandat de l'aménagement alors?
De toute façon, il y a un débat sur cette question. Mais l'aménagement est extrêmement utile au Mali. Si, effectivement, les gens sont tentés d'enlever l'aménagement, ça va être la catastrophe, pas seulement pour le Mali, mais pour la sous-région.
Alioune Tine, expert indépendant de l'ONU sur le Mali.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
La tuberculose, c'est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, par exemple, la maladie demeure un problème de santé publique. 45% des tuberculeux sont concentrés dans la région de Dakar. Et pour contrer la maladie, les autorités et les populations locales ont décidé d'agir. De Dakar, reportage de notre correspondant Sédina Abagay.
Il faut généralement 6 mois pour traiter la tuberculose avec des médicaments à prendre systématiquement et quotidiennement. À Dakar, le centre de santé Gaspard Camara applique le TDO, traitement directement observé. Ndak Diop, assistante sociale, nous détaille comment se passe ce traitement.
Le traitement directement observé, ça nous permet de prendre directement le médicament et de remettre directement le médicament et ce patient boit devant nous, devant un personnel de santé qui supervise. Vous savez que la tuberculose est une affection sociale. Les gens sont en à fuir parce que c'est une affection très contagieuse. Et ça nous permet d'accompagner ce patient. Autre avantage, les médicaments sont tellement efficaces. Le patient a l'impression d'être guéri. Nous, avec les prises supervisées, ça nous permet au jour le jour de lui rappeler que c'est 6 mois à l'alerte. Chaque jour, vous devez venir et de l'accompagner jusqu'à ces 6 mois.
Avant le traitement, il faut d'abord diagnostiquer la maladie et pour cela, les autorités préconisent un dépistage précoce et efficace. Le docteur Pape Amadou Lamine Gueye, pharmacien et biologiste au laboratoire du programme national de lutte contre la tuberculose nous explique.
C'est un appareil qui permet de dire qu'il y a la tuberculose et il te donne la sensibilité à une des molécules phares dans le traitement de la tuberculose qui est la rifampicine. Si la microscopie ratait beaucoup de patients, on ne voyait pas leur maladie. Avec le GeneXpert, tous ces cas qui étaient ratés seront détectés. La conséquence, c'est que du point de vue thérapeutique, il y aura ce qu'on appelle le raccourcissement du délai de prise en charge, c'est-à-dire de traitement des patients. Et quand on dit raccourcissement du délai de traitement, ça peut impacter sur ce que l'on appelle la réduction du nombre de cas de décès.
La banlieue dakaroise est l'un des endroits les plus touchés par la tuberculose, raison pour laquelle les jeunes se sont mobilisés pour inverser cette tendance. Pape Faye est le secrétaire exécutif du comité de développement du centre de santé de Wakhina Nimzat, une commune de la banlieue dakaroise. La
situation humaine est dangereuse.
La situation est dangereuse. Nous avons même peur. Car à chaque fois qu'on répertorie 5 cas de tuberculose dans le département, les 3 sont issus de notre commune. C'est pour cela qu'en tant que jeunes membres du comité de développement sanitaire, nous avons réuni toutes les composantes de la société pour davantage sensibiliser la population. Et il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on réussisse.
La tuberculose
est un problème majeur de santé publique en Afrique. Au Sénégal, la mise en place d'un programme national de lutte contre la tuberculose depuis 1985 est la réponse de l'État à cette endémie. La tuberculose est une priorité sanitaire nationale et beaucoup de ressources sont allouées à la lutte à travers l'État et ses partenaires. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le président de la Cour pénale internationale appelle les États-Unis à soutenir la CPI et à adhérer à son traité fondateur, le statut de Rome. Le juge chilien Obi Osuji est intervenu ce lundi après une attaque de Washington contre la CPI, dont l'Amérique n'est pas membre, à savoir la menace américaine d'un retrait ou d'un refus de visa à toute personne liée à une potentielle enquête contre des militaires américains ayant servi en Afghanistan ou ailleurs. Au micro de Jacques Aristide, Henri Désiré Nzouzi, consultant en relations internationales.
Alors avant peut-être de répondre à votre question, Jacques, je voudrais quand même juste préciser que les États-Unis ont bien signé le traité de Rome instituant la CPI, mais ne l'ont pas ratifié, ce qui est d'ailleurs le cas de la Russie. Alors pour répondre plus précisément à votre question, je crois qu'il y a une volonté de la CPI d'ailleurs de ne pas envenimer la situation, mais plutôt de prendre les États-Unis par les sentiments. Il faut quand même rappeler que les principaux alliés des États-Unis, à savoir notamment les pays de l'Union européenne, dans leur immense majorité, pour ne pas dire tous, sont eux, pour le coup, membre de la CPI. L'occasion aussi pour le juge président de la CPI de rappeler que finalement les missions et objectifs de cette juridiction ne sont pas tellement éloignés au fond des valeurs que défend la Grande Amérique, celle qui est souvent présentée ou en tout cas pointé du doigt comme étant le gendarme du monde. Donc une volonté d'apaisement, mais de rappel de certains principes fondamentaux.
Les relations entre Washington et la CPI ont toujours été tumultueuses, mais quid des rapports de l'administration du président Donald Trump avec ce tribunal qui est basé à La Haye, il faut le dire.
Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir ce qui s'est passé avec le prédécesseur de Donald Trump, en l'occurrence Barack Obama, qui lui était dans une posture beaucoup plus, on va dire, conciliante, tant que cela servait les intérêts des États-Unis. Avec l'arrivée de Donald Trump, évidemment, les choses vont s'envenimer, s'exacerber. Tout le monde a encore en mémoire les propos qui ont été tenus en septembre 2018 par le conseiller à la sécurité nationale Bolton, lorsqu'il a dit « Pour nous, la CPI est morte ». Alors quand on tient des propos de ce type, là, il est clair qu'il est assez, je dirais, difficile d'envisager une coopération franche et sincère. En réalité, l'Amérique s'est souvent, en tout cas vis-à-vis des juridictions pour lesquelles elle n'avait pas de contrôle direct, privilégié plutôt l'isolationnisme, pour ne pas dire la défense de ses propres intérêts. Et cela va d'autant plus loin que les États-Unis ont d'ailleurs réussi à signer un certain nombre d'accords avec des pays au niveau bilatéral pour évidemment les empêcher de pouvoir accompagner toute enquête de la CPI qui engagerait éventuellement des ressortissants américains.
Qu'en est-il du rôle de la procureure Fatou Bensouda dans ces rapports très tendus ? On sait que Fatou Bensouda est très critiquée également par les dirigeants africains.
Oui, effectivement. D'autant que le nombre de condamnés ou en tout cas de prévenus qui sont passés par la CPI sont majoritairement africains. Mais pour comprendre en tout cas le rôle de Fatou Bensouda par rapport aux États-Unis, il faut peut-être, je pense, s'intéresser aux examens préliminaires qui souvent précèdent les enquêtes qui sont menées. En 2016, par exemple, c'est elle qui a révélé qu'en Afghanistan, il y avait eu des crimes qui avaient été perpétrés par des soldats américains avec des membres notamment de la CIA. Donc cela a effectivement donné lieu à cette annonce selon laquelle il y aurait des poursuites contre des ressortissants américains. Il n'en fallait pas plus pour que les États-Unis puissent évidemment battre le rappel des troupes et mettre la CPI dans son viseur.
L'analyste Henri-Désiré Nzouzi, intervenant hier soir dans notre journal télévisé Le Monde Aujourd'hui. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.